Eh bien, bienvenue ce matin à l'Assemblée. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent sur l'Internet, sur le web. Eh bien, ça n'a pas été une semaine facile, n'est-ce pas, avec le décès de notre cher bien-aimé Jean Lapierre, un personnage bien connu ici au Québec. On appréciait beaucoup. Bien-aimé, il y a eu plusieurs témoignages sur la télévision de gens qui le connaissaient bien. Puis tout le monde, c'était unanime, c'était une personne très affectueuse et bien appréciée. On pense à sa mère qui vit ce drame alors qu'elle a perdu non seulement Jean Lapierre, mais une partie de sa famille, quelques membres de la famille, alors qu'elle allait se préparer pour enterrer son mari. Ça, c'est une réalité de la vie, la souffrance, définitivement une réalité. Qu'on soit jeune ou moins jeune, ce n'est pas juste une affaire de personnes âgées. Tout le monde ici, un jour ou l'autre, nous allons souffrir. Je pense que c'est Shakespeare qui l'a bien dit. Il dit dans Macbeth, il dit « Chaque matin, de nouvelles veuves se lamentent, de nouveaux orphelins pleurent. Chaque jour, de nouveaux accents de douleur frappent le ciel de plein fouet. » Et d'ailleurs, ce matin même, j'apprenais que vous connaissez bien ce chef qui fait des recettes, il y a même une revue en son nom et tout ça, Louis-François Marcotte. Était avec son petit garçon hier sur la route et puis il s'en allait faire des commissions avec son petit garçon. Et puis, il a eu, je pense, si j'ai bien compris, une crise d'épilepsie il a perdu le contrôle. Et là, tout d'un coup, il a perdu le contrôle du camion et puis le camion est parti là et puis il aurait pu avoir un grave accident. Heureusement, personne de blessé. Patricia Paquin, son épouse, raconte qu'il est présentement à l'hôpital. Subit des tests, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Vous savez, chaque jour, l'équivalent d'une ville moyenne va disparaître. Des gens qui meurent un peu partout et laissent des gens dans la souffrance. On n'y achète vraiment pas. Et que dire des conflits? Des conflits de travail qui nous causent beaucoup d'ennuis, beaucoup de souffrance et de douleur. Conflits au travail, des conflits dans le couple, dans nos mariages parfois. Parfois, on passe par des saisons qui sont difficiles. Et parfois, ce sont les enfants qui nous causent du souci. Parfois, c'est les enfants qui vivent des temps difficiles, soit à l'école ou avec les parents ou avec les amis. Alors, on va tous connaître, indépendamment de l'âge que nous avons, c'est une réalité de la vie, on va passer par des saisons de souffrance. Parfois, d'autres, ça va être des pressions ils vont souffrir en raison de grosses pertes financières. On a entendu des gens à travers l'histoire connaître ces épreuves. La vérité, c'est qu'on va souffrir un jour ou l'autre. Alors, comment réagir? Et comment surtout se préparer à faire face à ces saisons de douleur? Eh bien, heureusement, Dieu nous prépare. Il nous prépare à faire face à la douleur et à la souffrance. Il va nous donner, il va nous équiper. Il va nous donner des outils. C'est ce qu'on veut regarder aujourd'hui dans une lettre, dans une courte lettre, dans le fond, c'est pas vraiment long, une lettre écrite par Jacques dans le Nouveau Testament. Un livre très pratique, pratico-pratique. C'est le livre de Jacques. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le premier chapitre, en fait. Jacques va commencer tout de suite comme ça, directement, prend pas de temps de faire de longues introductions, tout de suite se lance au message qu'il veut nous livrer pour nous préparer, en fin de compte, à faire face à des moments de douleur et de souffrance. Comment réagir devant l'épreuve? Donc, il nous donne ce message dans le premier chapitre, déjà au verset 2, et on va lire les versets 2 jusqu'au verset 8, quoique de temps en temps, à travers le temps que nous aurons ensemble, on va aller un petit peu plus loin, on va citer d'autres versets dans la lettre, mais concentrons-nous surtout entre les versets 2 jusqu'au verset 8. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout, simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Eh bien, dès l'ouverture de sa lettre, Jacques embarque dans son message, puis voici ce qu'il nous livre comme message. Grosso modo, les versets qu'il va couvrir, ce premier passage, son message se résume ainsi, très, très, très simple. Il dit dans la joie, gardons la joie plutôt, bon an, mal an, c'est-à-dire dans les bonnes saisons, dans les bonnes années, comme dans les moins bonnes. Gardons la joie, bon an, mal an, dans les bonnes ou les mauvaises années. Mais comment? Comment on peut faire ça? Comment on peut avoir de la joie alors que ça va vraiment mal, puis on passe par des temps tellement difficiles? Eh bien, ça prend une clé. Il y a une clé passe-partout que Jacques va nous donner, il nous livre, c'est vraiment la clé pour comprendre ici ce qu'on a besoin comme outil très pratique pour nous aider à passer à travers, et non seulement cela, garder cette joie à travers ces épreuves qui peuvent nous frapper. C'est une clé passe-partout. Et voici ce qu'il dit au verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là, il y a un mot très important ici dans ce verset, on peut le souligner certainement, c'est le mot considérer. Le mot considérer ici. Et je ne sais pas si vous connaissez la clinique Mayo, c'est bien connu, très respecté. D'ailleurs, le U.S. News and World Report, le rapport classait la clinique Mayo l'an passé, en 2015 d'ailleurs, comme le meilleur hôpital des États-Unis, toute spécialité confondue. La clinique, c'est très gros. J'ai une photo ici. Ça, c'est le bureau chef, le siège social, dans le fond. Mais c'est très gros, comme vous pouvez voir. Il y a différents endroits. 60 000 employés, plus de 3 000 spécialistes, des médecins et tout ça. C'est assez gros. Un des spécialistes, un médecin, d'ailleurs, il est professeur à la faculté de médecine à la clinique Mayo, s'appelle le Dr. Soud. Il a fait beaucoup de recherches pendant plus de 20 ans. Grosse, grosse recherche. Il a consulté des dizaines de milliers de patients, des étudiants. Il a lu des milliers et des milliers de papiers, de documents de recherche, de chercheurs. Il a passé des centaines d'heures. Et il a mené des études pendant plus de 20 ans, imaginez. Alors, c'est très long comme étude. Sur un sujet en particulier pour essayer d'arriver à bien comprendre comment être heureux. Imaginez. Alors, vous avez ici la science, les chercheurs, les grands chercheurs, et il a produit un rapport dans un magazine, ou plutôt dans un livre, qui s'appelle « The Mayo Clinic Handbook of Happiness ». Alors, le guide du bonheur de la clinique Mayo. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs recherches à l'intérieur de ça. Évidemment, il voulait comprendre toute la question du stress aussi, la dépression, le découragement, qu'est-ce qui nous écrase, qu'est-ce qui nous rend malheureux, qu'est-ce qui nous fait filer down. C'est quoi qui cause ça? Finalement, au bout de ligne, c'est comment être heureux. Comment? Parce qu'on vit dans un monde où c'est très vite, c'est le stress, on veut produire. C'est facile donc de sombrer dans le découragement et de se laisser écraser. Donc, il s'est spécialisé à travers les 20 dernières années et la recherche et les plus grands scientifiques et les chercheurs de pointe arrivent à des conclusions après avoir mené une très grosse enquête, 20 ans, milliers des milliers des milliers de consultations et d'entrevues. Et voici la conclusion. Il dit, le cerveau humain, il a découvert que le cerveau humain est continuellement en train de passer en deux modes. Constamment en train de passer en deux modes. Entre le mode que lui appelle le premier mode, le mode par défaut. On va tomber dans le mode par défaut, naturellement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, vous savez, c'est le mode où nos pensées commencent à voyager. Et j'espère que ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas en train de penser à votre rôti de bœuf? Eh bien, moi, amenez-vous ici au mode 2. Là. Au premier mode, c'est vraiment lorsque nos pensées voyagent, dérivent, on se laisse aller, puis on commence à réfléchir, puis on pense. D'accord? Et ça, c'est le premier mode. C'est le mode par défaut. On va tomber naturellement sur ce mode-là. D'accord? Le mode 1, premier mode. Le deuxième mode, c'est le contraire. C'est que là, vous êtes concentré, vous êtes fixé sur une idée, une bonne idée ou quelque chose sur lequel vous êtes en train de vous concentrer. Ça, c'est le mode 2. On n'est pas naturellement transféré là-bas. D'accord? on est naturellement, par défaut, on va tomber dans le mode 1. Et vous serez peut-être surpris de découvrir que ce que la science a révélé, c'est qu'on passe la moitié de la journée, et là on parle pas de la nuit quand on dort, on parle de la journée, on passe la moitié de la journée, et ça, ça veut dire que vous êtes là, hein? À quelque part, il y en a quelques-uns ici ce matin. On passe la moitié de la journée dans le mode par défaut, où là, on pense. Et là, on pense, et puis là, on est parti, mon ami, on part à la dérive des pensées voyages, et ça se promène. D'ailleurs, vous vous en souvenez, peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive. Des fois, je suis en train de lire un livre, et là, j'ai lu tout un gros paragraphe, je viens de finir la page, je me prépare à tourner, puis là, je me dis, qu'est-ce que je viens de lire? Là, je me dis, pour essayer de me dire, c'est pas vraiment de ma faute, mais ça devait être plate, il ne devait pas avoir grande action dans la page, puis ça. Je recommence à lire la page, là, il y avait un meurtre, il y avait six. Ah! Wow! J'ai passé tout droit, je ne me suis même pas aperçu de toute cette action-là qui se passait dans la page. Moi, mon ami, mes pensées étaient complètement ailleurs. J'étais pas là en tout. Pourquoi? J'étais retombé dans ce mode-là, par défaut, où mes pensées voyagent, sont à quelque part dans le mode 1. D'accord? Alors, regardez bien ceci, écoutez bien. Ça, c'est excellent. Voici ce que la science la plus avancée, là, tu ne peux pas aller plus loin que ça, là. Les chercheurs, les spécialistes, après 20 ans de recherche avec des grands chercheurs, ils arrivent à la conclusion. Voici ce qu'il dit. En passant, ce n'est pas nécessairement négatif ce côté-là, là. Parce que des fois, c'est ce côté-là aussi qui est créatif. Des fois, on fait du brainstorming dans notre tête, on passe à des différentes affaires, et puis on réfléchit, c'est le côté créatif aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème. Et voici où il y a le problème. Lorsqu'on passe à ce mode par défaut, on aura plus tendance à tomber dans des pensées qui vont nous abattre, qui vont nous mettre down. Et je donne un exemple. C'est quand on est dans ce mode par défaut, que là, tranquillement, des pensées vont commencer à arriver, puis on va dire, je me demande si Hélène m'aime vraiment. Il me semble que ça fait longtemps qu'elle m'a pas texté. Aïe, 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 je pense que, ça fait longtemps, d'ailleurs, je l'ai vue de loin l'autre jour, puis elle ne m'a même pas parlé. Je me demande si c'est pas à cause que j'ai refusé d'embarquer dans son club de livres. Ah, certain qu'elle m'en veut. Ça, c'est quand tu es dans ce mode-là, là. D'accord? C'est ce côté-là, là. Trop de gens passent trop de temps sur ce côté-là. D'ailleurs, le problème n'est pas d'y passer quelque temps, un petit peu. C'est quand tu es là, puis tu restes là, puis tu laisses tes pensées voyager où ils veulent s'en aller. Et c'est là que tu vas commencer à entretenir des pensées destructives et négatives. Passer trop de temps dans ce mode signifie que vous aurez peut-être une fixation sur des « oh, mais peut-être, oh, mais tout d'un coup, puis du coup, ça arrive, cette affaire-là. » C'est lorsque tu passes trop de temps dans ce mode par défaut que tu commences à entretenir ce genre de pensée-là. Vous vous demandez ce que les gens pensent vraiment de vous, et tranquillement, le stress va commencer, la déprime va commencer. Et là, vous avez commencé à, peut-être dans certains cas, de l'anxiété. Et là, vous êtes privé de bonheur. Quoi faire pour être plus heureux? D'accord? 20 ans de recherche, les plus grands chercheurs arrivent à cette conclusion. D'accord? La fine pointe de la recherche scientifique nous emmène à tirer cette conclusion-là. Quoi faire pour être heureux? Voici la conclusion du Dr. Sud. Nous pouvons encourager nos pensées à entrer dans le deuxième mode. Il y a quelque chose à faire pour transférer de mode. Nous pouvons encourager nos pensées à entrer dans le deuxième mode, le mode concentré, en choisissant intentionnellement à quoi vous allez penser. D'accord? En choisissant intellectuellement ce à quoi vous allez penser. Cela signifie, dit le Dr. Sud, prendre le contrôle de nos pensées plutôt que de laisser les pensées venir à vous. Voici donc ce que la science la plus avancée nous dit pour être heureux. Il faut prendre le contrôle de nos pensées. Prenez le contrôle de vos pensées. Choisissez intentionnellement à quoi vous allez penser. Mes chers amis, la parole de Dieu nous dit ça depuis 2000 ans. Est-ce que j'entends des amen? C'est vrai. Regardez ce que dit Paul dans la lettre aux Philippiens. Laissez-moi vous parler de l'auteur aux Philippiens. Lorsqu'il a écrit la lettre aux Philippiens, il est en prison. Il ne savait même pas où il s'en allait. Il dit, je ne sais pas si je vais mourir, si je vais vivre, si je vais être relâché ou si je vais rester en prison. Puis les prisons à Rome, c'est pas vous dire, là, c'est pas à Cancun, là. C'est pas évident, là. Il avait déjà subi des fouets. On l'avait fait souffrir. Il pleurait aussi nuit et jour lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Il dit, moi, nuit et jour, j'ai le fardeau des églises. Il y avait plusieurs chrétiens qui envoyaient des lettres, posaient des questions. Tout ça, il vivait toutes sortes d'épreuves et de situations. Et lui, il emmenait ça dans la prière, passait des heures à prier, puis demandait à Dieu d'intervenir pour la santé spirituelle des églises et des chrétiens. Donc, il portait constamment ce fardeau sur son cœur des églises. Et il le dit, nuit et jour, je verse des larmes, je pleure, pensant à l'état spirituel de certaines églises et tout ça. Il portait ça sur son cœur. Donc, dans cette tristesse, ce chagrin, malgré ça, lui-même dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Imaginez, c'est lui qui dit ça. Lui a le droit d'en parler, de la joie, laissez-moi vous le dire, parce que lui, il connaissait vraiment la souffrance. Et pourtant, le thème qui va sortir de la lettre aux Philippiens, le grand thème, c'est l'unité, mais un des thèmes très importants qui va ressortir de la lettre aux Philippiens, c'est la joie. Et c'est dans cette lettre-là qu'il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il dit, réjouissez-vous. Alors voici un homme avec une vie pleine de souffrance qui dit, hey les amis, perdez pas votre joie. Bon an, mal an, bonne année, une année difficile, réjouissez-vous. Réjouissez-vous sans cesse. Continuez de vous réjouir. Paul n'avait pas perdu sa joie alors qu'il était trempé dans la souffrance. Et comment est-ce qu'il a fait? C'est quoi le truc? Lui-même le dit. Lui-même va se servir d'un mot à travers sa lettre aux Philippiens. Un mot qui va revenir d'une façon ou d'une autre plus de 16 fois dans cette courte lettre, juste de 4 chapitres. Vraiment pas long. Mais il va en parler plus de 16 fois, un mot qui va revenir, pensez. C'est dans la tête que ça se passe. Juste un exemple, on n'ira pas voir toutes les références, mais juste un exemple. Dans Philippiens 4, 8, qui dit ceci. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées, voyez, portez vos pensées, là, sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Le mot qui va revenir plus de 16 fois, le mot pensée, c'est dans vos pensées. Exactement comme le docteur Sud disait, il faut, et c'est ça que Paul est en train de dire, choisir intentionnellement vos pensées. Porter vos pensées. C'est un geste, une action, là. On prend un choix, on prend une décision. Comme Paul, on a besoin de penser selon la ligne de pensée des Écritures saintes. Le secret de la joie se trouve non pas dans un monde où il n'y a pas de problème. C'est un monde déchu, c'est absolument impossible, c'est pas réaliste. On vit dans un monde déchu, dépravé, depuis la chute d'Adam et Ève. On vit dans ça et on subit les conséquences de la chute. Et nous-mêmes, on contribue à ça parce que notre cœur est pécheur. On va se faire du mal les uns les autres, c'est la réalité. On ne peut pas vivre en ermite. Et jamais, jamais se faire mal. On va avoir du mal dans ce monde. Parce qu'on vit dans un monde déchu. Alors, le secret, l'outil qu'on a besoin, c'est pas juste la pensée positive. Non, parce que ça, encore là, c'est artificiel. Ce qu'on a besoin, c'est de penser comme les Écritures pensent. Et c'est ce que Jacques va nous enseigner à faire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Il dit, mes frères, dans Jacques 1, 2, mes frères et sœurs, considérez, alors en d'autres mots, choisissez intentionnellement ce que vous allez penser des épreuves. Comment vous allez interpréter le mal auquel vous êtes exposé en ce moment, choisissez intentionnellement l'interprétation que vous allez donner à ce mal-là. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. En d'autres mots, on a besoin de changer de mode de pensée. Par défaut, si je me laisse aller, Si je laisse les pensées m'envahir, prendre le contrôle, c'est certain, tranquillement, je vais me laisser abattre. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, et c'est à travers la plume de Jacques, faut que tu prennes tes pensées, tu contrôles tes pensées. Je vais entretenir des pensées, selon la grille des Écritures. C'est ça qu'il est en train de dire. Jacques est en train de nous dire, change de mode, laisse-toi pas sur le mode par défaut. Sors de ça, passe à l'autre mode. Dirige tes pensées dans la bonne direction. Concentre-toi, fixe-toi sur des pensées selon les Écritures. Alors, quelles pensées on doit choisir intentionnellement, qui vont m'aider à garder la joie bon an mal an, dans les bonnes et les moins bonnes années? Quelles pensées j'ai besoin intentionnellement de garder si je veux garder ma joie? Eh bien, j'ai besoin de trois pensées, nous dit Jacques. Jacques les énumère. Trois pensées que j'ai besoin de garder à l'esprit, de considérer. Lorsque je passe à travers la fournaise de l'épreuve, j'ai besoin de passer à trois pensées. Premièrement, lorsque tu luttes dans l'épreuve, tu es dedans, là, tu es dans le jus, là, ça fait mal. Lorsque tu luttes dans l'épreuve, rappelle-toi des buts du chrétien. Verset 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Maintenant, ça, c'est bizarre. Si tu sors ce verset-là de son contexte, honnêtement, c'est cruel. Non, pensez-y, là, c'est à peu près comme si tu disais, en passant, là, lorsque tu passes un moment qui est affreux, ton boss vient de te mettre dehors, là, réjouis-toi. La vie est belle. C'est cruel. Pas vrai? Et j'ai découvert quelque chose il y a quelques temps. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai découvert. Je ne sais pas si vous connaissez le magasin Forever 21, boutique ici, aux promenades. Pour faire de la publicité, nécessairement pas ça, là, mais j'ai pas de part là-dedans et tout ça. Là. Mais Forever 21, je suis en train de lire des articles à un moment donné, puis j'ai découvert récemment, ça fait pas longtemps, là, d'ailleurs, ma fille était chez nous, Katia, elle s'était fait opérer justement à Montréal, et puis elle est venue se reposer pendant une semaine chez nous, le temps de reprendre ses forces et tout ça après l'opération. Et là, j'ai découvert que Forever 21, les propriétaires sont des chrétiens évangéliques. Je dis, hein? Wow! Et ça a de l'air! Je disais à Katia, ma fille, je disais, écoute, tu vas aller voir ça sûrement en boutique, vous allez magasiner tout ça au promenade. Je dis, tu vas aller voir la boutique, les Forever 21. Je dis, ça a de l'air. Qu'à chaque fois que tu achètes quelque chose au Forever 21, bon, évidemment, ils vont donner un sac, ils vont mettre le linge dedans. Ah, bien, en passant, maintenant qu'il y a, bon. Et là, c'est de la pub. C'est de la pub. Mais c'était pas intentionnel, mais de la pub. Ils donnent un sac comme ça, d'accord? Chaque fois que tu t'en vas au Forever 21. À travers le Canada, ils vont donner un sac comme ça. D'accord? J'ai dit à ma fille, j'ai dit, chérie, j'ai découvert une chose, ça reste des chrétiens évangéliques. Ça, hein, ouais, quoi, hey, c'est fort. Hein. J'ai dit, à chaque fois, là, ils vont mettre le linge dans un sac. Puis, ça a l'air en dessous du sac, en bas du sac, il y a un verset de la Bible. Jean 3, 16. À imaginer, c'est toute une affirmation, toute une déclaration. Pensez-y, à travers le Canada, chaque personne qui va au magasin Forever 21, il y a un message en dessous du sac qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey, » c'est toute une déclaration, mes chers amis, ça. C'est l'Évangile au complet dans un verset. C'est fort. Maintenant, imaginez que Forever 21, ce matin-là, le directeur général décide, on ne mettra pas Jean 3, 16 aujourd'hui, on va mettre Jacques 1, 2. Quand ça va mal, réjouis-toi. On s'entend, hein? Ça ne fonctionnerait pas. On s'entend que Forever 21 recevrait pas mal de lettres. D'accord? Pas mal sûr. Alors, c'est sûr que si tu sors le verset de son contexte, ça semble cruel, mais Jacques ne nous laisse pas là. Jacques ne nous laisse pas tout seul, juste comme ça, il dit, « Hey, réjouis-toi quand ça va mal! » Non, non, il va nous dire pourquoi. Et il nous donne l'explication pourquoi tu peux te réjouir, sachant que... Et il continue, et c'est ce qu'il dit. Il dit, verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ce qui va nous aider à garder la joie bon an, mal an, c'est se rappeler les buts du chrétien. dont le premier, Jacques va en numérer deux, il y en a le premier, c'est la maturité chrétienne. En d'autres mots, lorsque tu luttes dans l'épreuve, rappelle-toi au début du chrétien, dont le premier, c'est de grandir. Et Dieu va se servir de cette fournaise de souffrance. Dieu va se servir de ces souffrances-là à travers lesquelles tu es en train de passer pour te faire grandir en lui. Alors, tu peux garder la joie dans l'épreuve, dans la souffrance, sachant que Dieu est en train d'opérer une œuvre magnifique à travers ta vie, puis il va te changer à travers la fournaise de l'épreuve. Verset 4, « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Chers amis, les athlètes comprennent ça. Les athlètes comprennent que pour devenir meilleur, il faut absolument que tu bûches, mon ami. No pain, no gain. Hein? Pas de résultat sans effort. Tu le sais. Tu vas travailler, tu travailles les muscles, etc. Puis tu t'avances et tranquillement avec le temps, tu vas devenir de plus en plus fort. Et là, tu vas atteindre tes buts. Par exemple, j'étais abonné à un moment donné à des revues de Running World. Et un expert nous a dit ceci, il disait, quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné et vous voulez recommencer l'entraînement, admettons que vous voulez vous entraîner à faire du jogging, voici ce qu'il faut faire. Il dit, suivez ça à la lettre. Il dit, sans ça, vous risquez de vous blesser. Il dit, ce que vous allez faire, c'est de commencer avec 1 minute de jogging, 1 minute de marche. 1 minute de jogging, 1 minute de marche. Et là, il y a tout un programme sur l'application et tout ça, qu'il va t'emmener même jusqu'à 5 km avec les semaines et les semaines et les semaines, avec 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Et ils disent de ne pas augmenter plus que 10% de distance par semaine. Le temps de construire tes muscles et de devenir de plus en plus fort. C'est le principe. Il faut travailler fort et endurer, persévérer, continuer pour te renforcer pour si bien qu'un jour, tu puisses être comme cette femme que j'ai rencontrée cette semaine, qui fait un demi-marathon à chaque mois. Mon amie, elle voyage à travers les États-Unis, puis le Canada, elle me dit, moi cette semaine, je m'en vais à Kentucky samedi, mais on va faire un demi-marathon. Elle est tous les mois, un 21 km. Elle faut être en forme, là, mais elle dit, tu sais quoi, ça fait des années que je cours. Mon corps est maintenant plus ferme, plus solide, peut se permettre de faire ça. L'un des magnifiques phénomènes de la nature, c'est la transformation d'une chenille en un papillon. Magnifique. Et vous savez que la chenille va se tisser un cocon. Pendant plusieurs semaines, elle va rester là et tranquillement, à un moment donné, vient le jour où elle va travailler très fort à l'intérieur du cocon pour ouvrir, arracher comme ce mur, ce cocon, pour sortir et tranquillement, elle va commencer à s'envoler. Elle est devenue, ça pourquoi elle a été créée, un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Un beau papillon. Un jour, vous connaissez peut-être cette histoire, un petit garçon qui est devant un cocon, puis il regardait. Il était vraiment fasciné parce qu'il voyait un papillon qui était en train justement de briser le cocon puis essayer de sortir. Il travaillait tant bien que mal, puis tout ça, travaillait fort, le papillon travaillait pour essayer de déchirer le cocon et sortir pour voler. Alors le petit gars regarde ça, puis il dit, « Oh, je vais l'aider. » Alors tranquillement, le petit gars est allé là, il a pris le cocon, puis il l'a déchiré un petit peu pour laisser sortir le papillon. Qu'est-ce que le papillon a fait? Il est tombé à terre. Tombé sur le sol, incapable de voler, absolument impossible de voler, rester écrasé sur le sol. Pour découvrir plus tard que c'est dans cette période de lutte à l'intérieur du cocon, lorsque le papillon travaille très fort pour déchirer le cocon et sortir, c'est dans cet épisode où il travaille dur, il souffre, il travaille fort, que sa forme, ça lui donne la force dont il a besoin pour partir à voler. Mes chers amis, Dieu le sait, que tu veux persévérer, il faut que tu endures, et endurer va te faire endurer, va te faire persévérer. Et à travers ce phénomène-là, ce processus-là, dans la souffrance, dans ces épreuves-là, tu vas grandir, devenir plus fort. Il n'y a pas de raccourci. Laissez la souffrance vous édifier, vous construire. Pour devenir de plus en plus fort. Jacques mentionne un second but. Non seulement il y a la maturité que ça produit, mais verset 12, il dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » On va recevoir une couronne de vie. Ici, l'accent n'est pas sur la maturité, mais sur l'ultime récompense. On parle de récompense ici. La consommation de la vie, la récompense qui est la vie couronnée. On va retrouver la même expression dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, dans un contexte semblable. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » En d'autres mots, nous devons vivre avec la vision de l'éternité. Apprenons à... un peu trop vite. Je vais vous l'expliquer tantôt. On doit vivre en fonction de l'éternité. Avoir dans la tête, lorsqu'on passe à travers ces moments difficiles de souffrance, on doit vivre avec la vision de l'éternité, qu'un jour nous allons entrer dans l'éternité et le Seigneur va donner cette couronne de vie. Et non pas nous limiter sur des choses de la terre ici, pas juste vivre pour ce qui est des valeurs de la terre. Peggy Noon en a dit ceci, une auteure américaine, éditorialiste du Wall Street Journal, d'ailleurs, c'était l'assistante du président Reagan. Et elle écrivait les speeches, les discours de Reagan et aussi de Bush. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, « Nous sommes la première génération qui croyait vraiment trouver le bonheur ici sur Terre, et cela nous a rendus profondément malheureux. » Si tu es un chrétien, si tu t'ennuies de ta demeure au ciel, si tu soupires avec les autres chrétiens à travers le monde qui disent, « Reviens Jésus », alors tu es en train de reconnaître que les épreuves présentes, les épreuves qui nous viennent sont en train de te préparer pour ce monde à venir. Parce qu'un jour, tu vas rentrer dans l'éternité. Verset 12 dit, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le Seigneur parle de récompenses ici qui nous attendent au ciel. Des récompenses, ça demande du travail, un prêt à payer. Mais c'est la consommation d'une relation. C'est parce qu'il y a de l'amour et on s'aime. On aime Dieu, il nous aime infiniment. Et on veut lui plaire. Alors, nous marchons avec Christ ici, mais nous allons marcher encore mieux dans l'éternité. Nous servons le Seigneur maintenant, mais nous allons le servir dans la gloire pour l'éternité avec un corps ressuscité où il n'y aurait plus de douleur, plus de fatigue, plus de souffrance. Nous connaissons Dieu ici d'une façon limitée, mais nous allons le connaître encore plus dans l'éternité. Alors, ce par quoi nous passons maintenant n'est rien quand on compare à la gloire à venir. Il convient donc de faire tout ce qu'on peut pour développer et cultiver cette façon de penser, cette perspective céleste, de manière que notre imagination, nos pensées, nos valeurs ne sont pas tellement attachées à cette vie sur terre, là, ici, qu'on perd toute cette notion de gloire à venir. Alors, lorsque tu luttes dans l'épreuve, rappelle-toi des buts du chrétien. Deuxièmement, lorsque tu penses à la souveraineté de Dieu, lorsque tu penses que Dieu est au contrôle de tout, ne soupçonne jamais ses motifs. Verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché est parvenu à son plein développement. A poursuivi la mort. Maintenant, la façon de comprendre le verset 16, c'est que si vous êtes tenté par de telles épreuves, lorsque tu parles à travers un moment tellement difficile, ne dis pas, tiens, c'est Dieu qui est en train de me tenter. C'est intéressant que Jacques va passer le mot épreuve et après ça, passe à le mot tentation. L'idée, c'est que dans l'original, c'est le même mot. Alors, c'est difficile de décider, c'est seulement le contexte qui va décider de quel mot il s'agit par l'auteur. Mais dans le cas de Jacques, il peut se promener du mot tenter et épreuve, parce que c'est vraiment ce qu'on vit, c'est la réalité de notre vie, ça. Les épreuves deviennent des tentations. Elles peuvent devenir des tentations selon notre attitude. Elle peut nous faire reculer comme elle peut nous faire avancer. Et c'est dans ce sens-là, Jacques le prend. Lorsqu'on fait face à une épreuve, dans quelque chose de difficile, les mêmes événements peuvent nous propulser en avant ou nous faire reculer. Les épreuves, dans ce sens-là, deviennent des tentations. Elles touchent une corde sensible chez nous. Maintenant, oui, c'est vrai que Dieu, il va arriver dans les Écritures qu'on voit Dieu éprouver quelqu'un. Mais Dieu, lorsqu'il éprouve quelqu'un, c'est jamais pour le faire tomber, c'est jamais pour le faire pécher. Au contraire, c'est la fournaise de l'épreuve de Dieu, c'est quoi? C'est pour nous faire grandir. Un peu comme de l'or, un minerai que tu vas mettre dans le feu, et c'est ça l'image, que tu passes dans la fournaise de la douleur, ça l'enlève, les saletés, ça ne garde que ce qui est précieux qui est l'or. Et c'est dans ce sens-là que Dieu va nous éprouver. C'est dans ce sens-là qu'il a éprouvé Abraham, c'est dans ce sens-là qu'il a éprouvé Israël. Mais malgré que Dieu va éprouver notre foi, il va le faire dans un but parfois de briser notre orgueil, parfois de nous forger l'endurance, de construire de la stabilité ou même de nourrir une vision d'éternité. Il ne le fait jamais pour nous faire tomber dans le péché ou nous détruire. Comment on pourrait voir Dieu faire cela? Car lui-même n'est jamais tenté par le mal. Voyez-vous la logique? Dieu n'est jamais tenté par le mal, donc ça ne tentera pas de te faire tomber. Il ne peut jamais tomber dans ce mode de pensée-là. Jamais. Donc, même dans le fond, c'est ridicule de penser ça. Mais Jacques nous dit pourquoi, par exemple? Qu'on va voir, on va vivre dans l'épreuve et tranquillement, ce qu'on peut faire, c'est commencer même à devenir amer. Qu'est-ce qui nous rend comme ça? Ce n'est pas Dieu qui est en train de nous faire tomber. Non, non, non. Il répond au verset 14, il dit, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Maintenant, les termes utilisés viennent du milieu de la pêche. Quelqu'un qui sait vraiment attraper un poisson, là, il va choisir le bon appât pour l'attraper, n'est-ce pas? Il va savoir quelle direction, quelle place aller avec son bateau, quelle région. Il dit, je connais une place. Moi je ne suis pas un bon pêcheur. Je ne suis pas un bon tentateur. Parce que je ne sais pas comment tenter le poisson pour le séduire et pour l'avoir. Je suis allé à la rivière des Outaouais. Je suis allé pêcher avec mes enfants, mes petits-enfants, puis ça, je suis allé, puis ça, mettre la ligne. Ça, j'ai jamais attrapé un gros poisson à la rivière des Outaouais. Et juste un petit poisson. Mon fils, c'est un petit peu plus long. Je peux pas voir ça de même, tu sais. Mais là, moi, j'entends des histoires comme Silvio Gautier qui a ramassé à Rivière des Outaouais. Le même haut, là, que moi. Il a attrapé un poisson de 48 pouces. Vous avez vu tantôt, accidentellement. Mais vous avez vu tantôt, je pense que c'est un esturgeon. Les gars qui connaissent ça, là? Hein? Esturgeon? 48 pouces. Rivière des Outaouais. La même place où je suis allé. C'est quoi le problème? Je ne suis pas un bon tentateur. Tu sais, eux autres, t'es écoutes parler, t'écoutes Sylvio parler, puis tu écoutes Normand, non, écoute, il faut que tu ailles pas loin de la marina, vois-tu, c'est comme un escalier en dessous, puis les dorés aiment ça, puis tout ça, tel poisson aime ça, ça, c'est comme des roches, ça fait comme un escalier, puis tout ça, là, tu t'en vas là, tu mets ta ligne là, hop, pour pas être pas trop bas, tu mets à peu près à la hauteur, parce que la température, puis etc., puis là, ils ont faim, telle date, puis tout ça, à peu près, puis là, t'es là, tu l'écoutes, et mon ami, ça prend comme un doctorat, là, un peu, je vais prendre des cours, je vais aller m'inscrire à l'université de la pêche. Écoute, les gars connaissent ça. Et parce qu'ils connaissent ça, ils savent quoi faire pour tenter le poisson et l'avoir. Bien, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé une fois d'attraper un poisson. J'étais tellement fier. Un poisson gris. Hey, 4-5 livres, c'était tellement beau. Mais je n'ai pas d'effort, pas fait de bébé d'effort. C'était le pêche sur glace à Fermont. Il y a ça de glace. J'ai l'impression que le poisson était là et nous attendait. On fait un trou, mettre une ligne. Puis, tu sais, tu mets une ligne, tu reviens le lendemain. Fait que c'est pas comme... Il n'y a pas de style. J'avais pas de style. J'ai laissé ça là. Puis on est arrivé le lendemain matin. Même quand on l'a sorti, le poisson est là. Il ne mettait pas. Non, je peux pas. Non, c'est comme... Il y en a qui ont le tour. Maintenant, la pêche, c'est plaisant. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais le problème vient quand c'est le diable qui commence à pêcher. Quand le diable lui met la ligne en avant de toi parce qu'il sait de quoi tu es fait, puis il connaît ta nature pécheresse, il sait exactement quel appât mettre juste devant toi pour que tu mordes. Pourquoi pensez-vous que Jésus, dans sa prière que nous avons chantée tantôt, dans sa propre prière, Jésus dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. C'est pas que Dieu va te mettre des appâts. Non, 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 c'est que tu ne peux pas les éviter. Tu n'es pas en train de prier et de dire, Seigneur, enlève-nous toutes les tentations et les épreuves dans la vie. Non, 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 ça. Il va en avoir. Mais il dit, ne nous laisse pas. C'est ça que ça veut dire, là. Ne nous laisse pas mordre à l'appât. C'est ça, la requête. Quand tu fais cette requête-là au Seigneur, ne nous induis pas en tentation, c'est exactement ce que tu es en train de demander au Seigneur. Seigneur, fais en sorte que je ne morde pas les appâts que le diable va venir mettre sur mon chemin. Que j'embarque pas dedans. On nous donne la raison ici. Le diable veut nous faire tomber. Maintenant, Jacques va aller plus loin dans son exemple et ça devient pas mal plus grotesque. Il parle d'un enfant ici. Verset 15. Et puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Ça parle d'une mère qui donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Alors, la mère ici, l'image, le portrait qu'il prend, c'est que la mère est le désir. L'enfant conçu, c'est le péché. Et lorsque le péché a grandi à pleine maturité, il meurt. Il donne naissance, en d'autres mots, à la mort. Le portrait n'est pas seulement que nous sommes attrapés par nos propres désirs, mais ici, tout notre style de vie au complet, à partir de la naissance jusqu'à la mort, nous sommes exposés, nous sommes dans un style de vie dépravé. Et le désir va produire l'acte va produire l'habitude va former le caractère et à la fin, il reste la mort. Ce que Jacques est en train de dire, dans ce monde brisé, dans le péché, on va être tenté parfois, ça va arriver. Nous serons tentés. Mais quand nous sommes éprouvés ou tentés, si on s'éloigne de Dieu, on commence à avoir de l'amertume dans le cœur à l'endroit de Dieu, on va même le blasphémer dans certains cas, on entretient de l'amertume. On devient méprisant, c'est pas dû à Dieu, c'est nous, notre faute. On a choisi d'aller dans cette direction-là. Une personne, la même personne, éprouvée avec la même épreuve, peut nourrir de l'amertume et un autre voir l'épreuve comme un tremplin qui va le faire grandir. Même chose. Et ce que Jacques est en train de dire, laisse-toi pas prendre au jeu. C'est ce qu'il dit. Alors, lorsque tu penses à la souveraineté de Dieu, que Dieu est parfaitement au contrôle de tout, ne soupçonne jamais les motifs de Dieu, comme s'il voulait, derrière tout ça, cette épreuve-là, te faire donner une jambette pour que tu tombes, que tu perdes ta foi. Jamais, Dieu ne ferait jamais ça. Dieu ne placera jamais rien devant nous pour nous faire tomber. Alors, on peut garder la joie, bon an, mal an, quand on garde nos pensées sur les buts du chrétien, sur les bons motifs de Dieu, et troisièmement, sur les grandes bontés de Dieu. Lorsque vous sentez abandonné et écrasé, n'oubliez pas la bonté de Dieu. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Laissez-vous pas aller, là. Laissez-vous pas aller tomber dans ce mode-là, vous allez commencer à critiquer Dieu, là. Laissez-vous pas aller là. Ne laissez pas vos pensées dériver sur des pensées erronées. Revenez à la vérité. Revenez à ce qui est vrai. Verset 17. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a jamais de changement, ni l'ombre d'une variation. D'autres mots, Dieu ne change jamais. Tu peux compter sur lui. Il ne se lèvera jamais un matin de mauvaise humeur. Puis tu as besoin de te tenir tranquille cette journée-là parce qu'il ne fait le pas. Jamais. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il est toujours, toujours le même. C'est dans sa nature d'être constant, être immuable. On dit que Dieu est immuable. Il ne change pas. Les gens dans l'Antiquité là, qui avaient des idoles, tout ça, ne cessaient de faire des offrandes et tout ça parce qu'ils espéraient adoucir, calmer Dieu, leur Dieu, leurs idoles, espérant qu'il leur soit favorable. Dieu merci, on n'a pas besoin de faire ça, nous autres. Dieu est toujours le même, toujours constant. Et il est constant en quoi? Eh bien, il t'a déjà prouvé, il t'a déjà donné l'ultime preuve de son amour pour toi. Au verset 18. La preuve ultime de son amour, verset 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Il nous a donné la vie. Et la vie dont il est question ici, ce n'est pas la vie que l'on reçoit à la création et tout ça, de naissance biologique. Non, ça parle de naissance spirituelle. Tu as donné la nouvelle naissance. Tu es devenu une nouvelle créature en lui. Et on sait parce que cinq fois que cette expression-là revient, la parole de vérité, cinq fois, et ça, cinq fois qu'elle revient, dans le Nouveau Testament, ça fait toujours référence à l'Évangile. Laissez-moi vous donner un exemple, juste dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. On ne regardera pas toutes les références, mais juste pour démontrer. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de l'Évangile, la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve. Donc, ce que Jacques est en train de nous dire ici, ça parle ici de la nouvelle naissance. En d'autres mots, Dieu a choisi de nous donner la nouvelle naissance à travers l'Évangile afin qu'on devienne les premiers fruits de ce qu'il a créé, cette nouvelle création spirituelle. En d'autres mots, Dieu aurait pu nous détruire. Il était en droit de le faire, dans sa justice et sa sainteté, il était parfaitement en droit de nous juger. Mais qu'est-ce qu'il a fait au lieu de nous juger? il a envoyé son Fils unique sur la croix, mourir à cause de tes péchés, prendre sur lui tes propres péchés. Voici l'ultime preuve de son amour. Et c'est pour ça que Romains 5, nous lisons, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il a choisi de nous donner la nouvelle naissance à travers l'Évangile, à travers la parole de la vérité. » Réalisons-nous ce que ce passage est en train de dire. Lorsque vous vous sentez abandonné, lorsque tu te sens écrasé dans la fournaise de l'épreuve, ou lorsque ça fait mal, n'oublie jamais à quel point Dieu t'aime. En d'autres mots, lorsque tu commences à tomber dans ce mode par défaut, tu commences à soupçonner l'amour de Dieu, puis ce qu'il pense de toi, retourne à la croix, tout de suite. Passe à l'autre mode et commence à te rappeler la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi sur la croix? C'est tout à fait possible de garder la joie, bon an, mal an, dans les bonnes années, des années tellement difficiles parfois, en gardant nos pensées sur les buts du chrétien, sur les intentions pures de Dieu et sa grande bonté.